Investigation, Justine Katz.
Aujourd'hui, dans Investigation, on vous emmène dans l'ombre des broyeurs à métaux. Il en existe 7 en Wallonie. Ils recyclent nos voitures, nos machines à laver, tous nos vieux fers et nos vieux cuivres. Plus de 3 millions de tonnes de déchets métalliques sont recyclés chaque année. Mais ce recyclage cache une pollution inquiétante. Nous avons enquêté sur ces broyeurs qui rejettent dans l'eau et dans l'air des substances toxiques, parfois cancérigènes, bien au-dessus des normes autorisées. Avec quel impact sur l'homme et sur l'environnement? Investigation a pour la première fois réalisé des tests sur quelques dizaines de riverains. Les résultats interpellants ont été communiqués en avril 2021. Où en sont les choses aujourd'hui? Ces broyeurs respectent-ils enfin les normes en vigueur? On en parlera avec nos invités, le bourgmestre d'Aubange, une des communes concernées, et avec une responsable de l'Institut scientifique de service public. Emmanuel Morimont est également avec nous. Vous êtes journaliste à Investigation. Vous avez réalisé cette enquête à la fin de l'année 2020. Ça a été facile d'enquêter dans ce milieu?
Bon, déjà de base, aucune enquête n'est facile. On s'attaque souvent à des sujets qui sont sensibles. Ici, la plus grande difficulté, c'était justement de pouvoir rencontrer le secteur des industriels du recyclage des métaux. J'ai pu en rencontrer certains, mais il y a eu une politique de la porte fermée, en tout cas pas d'interview accordée par les industriels ni par la fédération, alors que j'avais essayé de les convaincre, de les persuader, d'assister, de participer à cette enquête pour pouvoir faire valoir leur point de vue, montrer les contraintes auxquelles ils étaient confrontés, éventuellement les solutions qu'ils mettaient en place. Ils ont décidé de ne pas intervenir dans ce reportage et je dois bien avouer que c'est dans ma carrière la première fois que ça m'est arrivé. On a essayé aussi par la suite d'aller aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Italie. La réponse a toujours été non.
Vieux fer, le vrai prix du recyclage, c'est notre investigation du jour. Elle est signée Emmanuel Morimont et Jean-Marc Virzet.
C'est notre premier jour de tournage. L'équipement est inhabituel pour un journaliste. Des cuissardes de pêcheurs et un grand frigo-box rempli de flacons. Avec l'équipe, je descends dans le lit d'un ruisseau, le Piéton à Courcelles, en contrebas de la société Kayser. Elle recycle des métaux. Je vais prendre des échantillons d'eau.
On va faire un prélèvement en amont de l'entreprise. Ça permet de faire des comparaisons et on va aller en faire un après en aval.
Avec le caméraman et l'ingénieur du son, nous suivons le ruisseau. Je sors ma lampe frontale pour m'engouffrer dans un tunnel de 300 mètres de long.
Dans ce tunnel, au-dessus, il n'y a que le site de l'entreprise Kayser. Et en fait, on voit les canalisations, ce sont les eaux de ruissellement qui retombent ici dans le ruisseau, le Piéton.
À l'autre bout, la différence est marquante. Dans l'eau, je vois passer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des reflets qui ne sont pas naturels.
On voit toutes ces taches qui ne sont pas du tout normales. Ça, c'est vraiment caractéristique d'hydrocarbures.
Je refais les mêmes prélèvements dans cette eau noire. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. J'essaye d'identifier le point de rejet des eaux usées du broyeur industriel. Mais il se trouve dans une autre partie du tunnel. La progression est compliquée.
On n'avance pas.
Après quelques mètres,
je suis devant.
Notre ingénieur du son s'enlise. Il n'a qu'une petite paire de bottes.
Je m'enfonce. C'est... Attends, ce que moi j'ai dehors.
Nous l'aidons à sortir.
Appuie-toi sur moi.
Il doit faire demi-tour, je continue avec le caméraman. Nous avons de la boue jusqu'aux genoux. L'odeur d'hydrocarbures est très forte.
Ici, c'est vraiment galère. On s'enfonce dans une boue noire. On dirait vraiment une marée noire. Et c'est difficile d'avancer, donc on va faire demi-tour. Non. C'est comme si un pétrolier avait déversé quelque chose ici.
Ce jour-là, c'était mon tout premier contact avec un broyeur à métaux. C'est là qu'atterrissent nos poubelles métalliques, nos appareils électriques et électroniques, nos voitures hors d'usage, nos vieux fers, nos vieux cuivres. Ça me rappelle ces marchands qui tournent dans les villages.
Profitez de mon passage pour vous débarrasser de vos vieux fers, vieilles machines à laver, vieux poils,
Tous ces objets de notre quotidien terminent leur parcours dans ces broyeurs à métaux. On en compte 7 en Wallonie. Les déchets y sont triés, séparés et broyés en fins morceaux. Des tas de ferraille qui vont repartir vers la sidérurgie. C'est ce que l'on appelle l'économie circulaire. Mais dans tous ces objets broyés, il y a des substances toxiques. Parmi elles, les polychlorobiphényles, en abrégé, les PCB.
Ce sont des très vieux produits chimiques qui ont été largement utilisés entre 1930 et 1970.
Corinne Charlier est toxicologue au CHU de Liège.
Ils sont ininflammables et donc on les utilisait comme matériel de chauffage ou de refroidissement qui ne pouvaient pas s'enflammer. Donc c'était vraiment des substances largement utilisées, notamment dans les condensateurs, dans des résistances de frigo, etc., pendant très très longtemps. Alors ils sont interdits à l'heure actuelle, mais ils ont une très longue rémanence, c'est-à-dire qu'ils sont très très persistants dans tous les compartiments de l'environnement. Et donc dans un broyeur qui va se retrouver avec comme matière première parfois des matériaux très anciens, il peut encore y avoir présence de PCB. Ils vont avoir des effets qu'on appelle des effets perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des effets de dérèglement du fonctionnement de nos systèmes hormonaux. Alors on va parler par exemple des dérèglements du fonctionnement de la glande thyroïde. On parle beaucoup aussi des problèmes de fertilité, notamment fertilité chez le petit garçon. On pourrait parler aussi d'effets sur le système immunitaire par exemple, ou d'effets métaboliques comme le diabète de type 2, l'obésité.
Ces polluants, on refait parler d'eux à Courcelles. Le broyeur à métaux de la société Kaiser est à 200 mètres à peine d'une école, l'école de la Motte, et ses 190 élèves qui ont appris à vivre avec une pollution. J'y rencontre Madame Nathalie, une institutrice maternelle.
Au tout début, ce qui était embêtant, c'était à chaque fois qu'il y avait une petite explosion du carburant qui restait dans les véhicules, quand on avait des grosses fumées, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres, on ne pouvait pas sortir en récréation. Ça, c'est embêtant. Mais il y a des moments où il faisait sombre, gris. Et là, on se dit, c'est quand même pas normal. Ça sent, c'est une fumée comme du plastique brûlé. Ça pue. Il n'y a pas d'autre mot. C'est très dérangeant.
L'école a dû abandonner plusieurs projets. Le jardin et la mare pédagogique sont fermés, car l'ennemi invisible, c'est la poussière.
Et si c'était le jardin qu'on occupe avec les maternelles lors des récréations quand il fait bon, et là non plus, en fait, on ne peut plus y aller.
À cause de la pollution ?
À cause de la pollution, puisque les enfants ne peuvent plus aller dans les espaces verts, ils ne peuvent plus marcher dans la terre.
En 2018, dans les retombées atmosphériques de l'école, les autorités ont mesuré des concentrations de PCB en moyenne 40 fois supérieures à la limite actuelle du permis de l'entreprise. C'est tout un quartier de 2000 personnes qui vit avec des questions. Parmi elles, Jérôme et Sandrine de Geest, parents de deux enfants à l'école du village.
Mathéo, ça a été ta journée à l'école ?
Oui.
Oui ? Qu'est-ce que tu as fait de beau ?
Ils m'accueillent dans leur maison, à moins de 300 mètres du broyeur.
À chaque fois qu'il y a une déflagration, jusqu'à la porte ici vitrée qui tremble, donc déjà ça fait un boucan de tous les diables, et puis une fois que tout se met à vibrer comme ça, bon, au début on ne savait pas ce que c'était. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on se dit, une explosion de plus. On sait quand même rien y faire, donc voilà, ça arrive.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ?
La santé de mes enfants à long terme.
Ils passent leur journée complète à proximité du broyeur, que ce soit à l'école, à la maison. Finalement, au bout du compte, ils sont non-stop 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contaminé par ces PCB, du coup.
Explosion, dégagement de fumée. À Courcelles, la bourgmestre Caroline Taquin ne compte plus les incidents. La commune s'est constituée partie civile contre l'entreprise.
Moi, elle peut fermer demain, ça, on assumera. Le manque peut-être à gagner pour la commune, ce n'est absolument pas un souci. Et je préfère un investissement de privés qui viennent s'installer à Courcelles et qui respectent Courcelles, plutôt que d'avoir une entreprise qui est installée depuis quasi toujours, qui pollue, qui ne respecte rien, qui agit en cow-boy. Ces derniers temps, une fois par semaine, j'ai une réclamation de riverains, oui, qui est transmise et qui complète le dossier qui est dans les mains de la justice.
Aujourd'hui, vous allez déménager cette école ?
Le principe de précaution doit primer. Et donc, tant qu'on sait qu'il y a un risque pour la santé des enfants, tant que l'on sait que cette entreprise continue de fonctionner, eh bien, nous, en tant qu'autorité communale, en tout cas, on ne doit pas prendre le risque d'exposer plus longtemps les enfants à la pollution.
Donc aujourd'hui, vous déménagez une école à cause d'une entreprise ?
Aujourd'hui, on déménage une école, oui, effectivement, à cause d'une entreprise.
2 mois après cette rencontre, il y aura l'explosion de trop. La stabilité du bâtiment de l'école n'est plus assurée. L'école de la Motte disparaît définitivement du quartier. Mon enquête continue. En laboratoire, les résultats d'analyse du ruisseau de Courcelles en dessous de l'entreprise Kayser sont enfin arrivés. Un biologiste de l'université de Namur va les décrypter. Patrick Questemont est un spécialiste de l'impact des polluants sur la vie aquatique.
On ne peut pas évidemment dire que ça vient d'ailleurs. On va retrouver de l'aluminium, on va retrouver du fer, on va retrouver ces hydrocarbures, restes de diesel, d'huile minérale, etc. Donc c'est totalement en relation, en tout cas, avec l'activité de cette entreprise. L'aluminium est un métal qui est très toxique, qui n'a aucune fonction biologique. Et ça a un impact majeur sur la survie de ces organismes. Donc on est dans des doses où des organismes qui devraient être soumis, exposés à ces doses, mourraient en grande partie dans les 4 jours qui suivent l'exposition.
La pollution est dans l'eau, mais elle se propage aussi dans l'air, et pas seulement à Courcelles. J'ai réuni les rapports d'autocontrôle de toutes les entreprises de recyclage de métaux en Wallonie. Dans ces documents publics, je vois tous les polluants qui sortent de leur cheminée. Et il y a un point commun entre toutes, les PCB, qui sont en dépassement constant. Je parcours les données avec Catherine Boulan, présidente de l'école de santé publique de l'ULB.
Les PCB totaux, là, on se retrouve dans une situation qui perdure de mois en mois et d'analyse en analyse, où la norme est de 100 et on se retrouve avec 5200, 7200. Donc on est avec 72 fois beaucoup plus que ce qui serait admissible. On est à 79 000, 24 000, 34 000, 25 000.
Je n'en reviens là, pas, ces rapports sont accablants. Entre 2018 et 2019, les recycleurs de métaux wallons étaient en moyenne 90 fois au-dessus de la limite d'émission des PCB.
C'est une bombe, hein, c'est un danger, c'est vraiment pas du travail correct.
Ces polluants sont aussi des perturbateurs endocriniens.
Les perturbateurs endocriniens, ils peuvent interférer avec la croissance, avec la prise de poids, avec le développement du cerveau, avec même le cerveau lui-même, son fonctionnement, mais aussi avec la reproduction. Et donc c'est là qu'on se trouve face à des substances très très interpellantes parce qu'elles agissent à une quantité minimale. Vraiment, il suffit d'une substance qui remplace une hormone sur son récepteur pour avoir un effet.
Depuis plusieurs semaines, j'essaye de contacter les industriels. Mais les recycleurs de métaux refusent toute interview.
Excusez-moi, je ne réponds pas à rien. Excusez-moi.
C'est un non catégorique.
Non, on s'est arrangés tous ensemble. Il n'y a aucun qui parlera.
Ah, donc vous êtes mis d'accord tous ensemble?
Oui, voilà. Oui.
L'effet concret de cette pollution invisible, je vais pouvoir l'appréhender à quelques kilomètres de Mons. À la ferme de la Massarderie et son élevage de blanc-bleu belge. Une ferme familiale transmise de père en fils. Emmanuel Desquen m'ouvre les portes de ses étables. L'agriculteur est désemparé, car ses vaches ont des problèmes de fertilité.
J'ai beaucoup de problèmes pour avoir mes bêtes pleines. Et les dernières années, j'ai moins en moins de bêtes. Cette bête-ci, elle a 3 ans et demi. Ça va être son premier veau, mais ça devrait être son deuxième, quoi. Ce serait dû au problème PCB dans l'aliment qu'elle a ingurgité.
Sans le savoir, le fermier a donné une nourriture contaminée à son troupeau. Depuis avril 2020, son exploitation est bloquée par l'AFSCA et il continue à nourrir ses bêtes à perte.
Donc vous avez combien de bêtes au total ?
Une septantaine.
Et dans ces 70 vaches, il y en a qui vont partir au clos d'écarissage, qui vont être abattues ?
Oui. Normalement, oui. Tout ce qui a plus de 2 ans, ben, ici, il y en a 3 ou 4 qui ont déjà 2 ans. Tout ce qui est par là et toutes mes vaches, mes 2 taureaux sont catalogués comme contaminés et destination clos d'écarissage.
Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas les vendre et les valoriser?
Ah non, ah non.
Dans la luzerne des vaches, l'AFSCA a retrouvé des concentrations de PCB dépassant les normes européennes. Les polluants ont contaminé le corps des vaches. L'origine du problème, c'est un champ de luzerne qui longe le canal du centre. De l'autre côté, je découvre le plus grand broyeur à métaux de l'Union européenne. Il appartient à Comet Sambre. Il peut broyer 300 tonnes à l'heure. Dans le même décor, il y a aussi la cimenterie d'Aubourg. Les deux sociétés rejettent des PCB dans l'air. Mais comment savoir qui est responsable de la contamination?
J'ai dit aux gens de l'usine, j'avais 54 ans l'année passée, j'ai toujours connu la cimenterie, on n'a jamais eu de problème de pollution chimique. Il y a 10 ans, vous êtes là, et depuis 5-6 ans, j'ai plein de problèmes, donc... Mais après, prouvez-le.
L'éternel problème de la preuve. Une procédure judiciaire s'enclenche. Elle s'annonce longue. Je sens la détresse et l'impuissance de cet agriculteur. Ses pertes sont estimées à plus de 300 000 euros.
Mon boulot, c'est nourrir les gens. C'est pas travailler pour faire vivre les gens du clos de carissage. Ben, c'est... Il y a le moral qui en prend un sacré coup et... Je ne sais pas quoi faire. Il y a toujours autant de questions, il y a toujours aussi peu de réponses.
Et ça fait 8 mois que ça dure.
Ça fait 8 mois que ça dure, et... mais il ne faudrait plus que ça dure 8 mois parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu être agriculteur, avoir des bêtes. Et... J'aime bien passer du temps avec mes bêtes. Mais bon, je m'entends au pire, quoi, ça.
À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais je reviendrai ici presque un an plus tard. Et je serai témoin du pire jour dans la carrière de cet agriculteur. Fatigué et endetté, Emmanuel Dekken se résout à faire euthanasier les 3/4 de son cheptel. 58 vaches au total perdront la vie. Si les animaux peuvent être contaminés, l'être humain court-il un risque? Au moment de mon enquête, aucune autorité publique n'a testé les populations riveraines. Alors je décide de le faire à un endroit bien précis. Châtelet, c'est le bastion historique de Comet Sambre. L'entreprise y a installé son broyeur à la fin des années 80. À côté, il y a un quartier de 5000 personnes. La densité de population est très forte. Pendant une froide journée d'hiver, je vais faire du porte-à-porte avec l'équipe.
Bonjour, on vient faire des petits prélèvements de cheveux. Vous êtes au courant? Ok.
Objectif, trouver des volontaires sur qui nous allons prélever des cheveux.
Vous pouvez vous installer toutes les deux.
Heureusement, j'en ai beaucoup.
Hein. Oui, vous avez de la masse, c'est bien. Les scientifiques seront contents.
C'est un excellent indicateur de la pollution environnementale.
En fait, les 3 derniers centimètres, ça permet de remonter 3 mois en arrière.
Je porte des gants et je désinfecte à chaque coupe mon matériel.
Donc c'est pas pour l'esthétique qu'on fait ça aujourd'hui.
Ben oui.
C'est pour la santé. Donc j'ai prélevé 2 mèches à différents endroits. Ça va élargir un petit peu le trou, hein. Je m'excuse déjà. Voilà, alors je dois prendre 2 mèches, j'y vais. Je vais prendre à l'arrière du crâne, comme ça, ça ne...
Ça se verra pas.
Ça se verra pas, oui. Si je fais une bêtise...
Chaque participant va remplir un questionnaire.
Ça concerne vos habitudes alimentaires, votre lieu de travail.
Et certains me font part de leur quotidien.
C'est désagréable, les fines particules qui tombent tout le temps.
Non,
je vous dis, quand on fait un barbecue, je dis toujours, on en sourit. Mais il n'y a pas besoin de salé ni de poivré. N'oubliez pas ici qu'à quelques centaines de mètres, il y a une école. Hein. Et ici, à 100 mètres d'ici, il y a un home hein, de vieilles personnes. Hein. Mais on ne s'en est jamais occupé. Toujours priorité à l'emploi, point barre.
Bonjour. On propose aux habitants de Châtelet...
Pendant 12 heures, nous allons arpenter les rues.
Je devais aller chercher ma fille à son travail, donc je n'aurai pas le temps.
Et on voulait voir si éventuellement on pouvait faire un prélèvement de 2 mèches chez vous ou sur une personne qui habite chez vous.
Non.
Non.
Au bout d'une journée interminable, nous parvenons à récolter 70 prélèvements. 50 à proximité du broyeur et 20 personnes supplémentaires à 10 km de là à Nalines. Ce sera notre groupe témoin. Après 6 semaines d'attente, nous réunissons les habitants dans une salle d'école.
Tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être venus assister à cette réunion d'information.
Par vidéoconférence, je contacte le docteur Vincent Penet, directeur de l'Institut de recherche et d'expertise scientifique.
Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez de votre côté ?
Son laboratoire à Strasbourg a analysé 18 sortes de PCB dans les cheveux de nos volontaires. Il nous livre les résultats.
Pour le groupe de Châtelet, le nombre de PCB qui sont retrouvés dans les cheveux des participants est plus élevé que celui qu'on observe pour les échantillons prélevés à Nalines. Et de la même façon, la concentration individuelle ou la somme des PCB est plus importante pour la population de Châtelet que celle de Nalines.
Et est-ce que selon vous, c'est une différence qui est significative entre les deux populations ?
Mes conclusions vont en tous les cas dans ce sens, puisque cette différence est de l'ordre d'un facteur 3. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la quantité de PCB à laquelle est exposée la population de Châtelet est 3 fois plus importante que celle à laquelle est exposée la population de Nalines. On peut dire qu'à partir de 50 personnes évaluées, ça commence à être représentatif de la réalité.
Les habitants de Châtelet sont donc en moyenne 3 fois plus exposés. Ce jour-là, ils découvrent leurs résultats individuels.
Donc c'est là.
Ah oui, moi je suis...
Ouais,
c'est énorme, moi.
C'est toi qui as le plus ?
Oui.
Ouf, 62,5.
Oh, c'est encore plus que moi.
Je ne sais rien y faire. C'est un constat. La seule chose, c'est qu'on s'est espéré améliorer la situation dans le temps. Pas tellement pour moi, vu mon âge, mais surtout pour les autres, pour les plus jeunes.
C'est bien aussi de savoir pour nos enfants qu'il y a du risque. Et donc, de suivre ça, si un jour, au niveau médical, on entendait parler de résultats anormaux par rapport à quelque chose de spécifique. Donc oui, c'est important aussi de savoir qu'il y a un problème près de chez nous et que notre vie peut en être impactée.
J'espère réellement que cette enquête puisse faire bouger les autorités et que la région wallonne prenne vraiment conscience que les habitants sont là, et donc si eux, ils peuvent faire quelque chose également pour les sociétés ainsi, voilà, ce serait bien, quoi.
On fait fi de la population, je dis, on habite à côté, même si l'on se trouve dans un endroit où on est en zone industrielle, la population est là et on doit quand même la respecter.
Fin avril 2021, je publie le rapport scientifique sur le site web de la RTBF. 5 jours plus tard, une décision politique tombe. Céline Tellier, la ministre wallonne de l'Environnement, lance un biomonitoring spécifique pour les populations riveraines de tous les broyeurs à métaux. Les habitants vont enfin obtenir des réponses.
Retour en studio avec nos invités. Ingrid Ruti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet en environnement santé à l'Institut scientifique de services publics et vous êtes en charge de ce fameux biomonitoring. On va en parler dans quelques instants. François Quinard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bourgmestre d'Aubange pour le parti Les Engagés. Aubange, une des 7 communes wallonnes où se trouve un broyeur à métaux. Emmanuel Morimont, vous avez donc réalisé cette enquête pour investigation. On l'a entendu dans le reportage, les recycleurs de métaux wallons était en moyenne 90 fois au-dessus des normes en matière d'émissions de PCB, un perturbateur endocrinien, parfois même cancérigène. Quelle est la situation aujourd'hui ?
En résumé, il y a 7 broyeurs en Wallonie. Ils étaient quasiment tous en dépassement. J'ai repris les derniers chiffres, donc les derniers plans internes de surveillance des obligations environnementales des entreprises, donc qui ont été communiqués fin mars 2022. Et on constate que la majorité des entreprises sont maintenant en règle vis-à-vis des émissions de PCB, de ce qui va à sortir de leur cheminée. Il en reste une qui est toujours en dépassement, c'est le broyeur de Richebourg à Marchiennes-au-Pont. Donc on se souviendra que ce broyeur est situé juste à côté de l'école des jeunes de l'Olympique de Charleroi, un club de foot où il y a 600 jeunes qui s'entraînent. Et là, pour l'année 2021, on est en moyenne toujours 23 fois au-dessus de cette limite des PCB. Donc il y a des améliorations, mais il y a encore un peu de chemin à faire.
C'est une enquête qui a eu beaucoup d'impact.
Alors, le principal impact, ça a été le changement dans le chef de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. Il faut savoir que fin 2019, début 2020, il y avait plusieurs experts internationaux, dont Corinne Charlier, dont l'ICEP également, qui recommandaient à la ministre de tester les populations. À l'époque, elle avait décidé de ne pas suivre cette voie. Et après la diffusion de l'enquête, 5 jours après précisément, elle a communiqué en ce sens, elle avait changé d'avis, elle a décidé de lancer ce biomonitoring spécifique sur les populations sur l'ensemble des sites, donc des 7 sites de broyage.
Alors, un des endroits en Wallonie où il y a un broyeur à métaux, c'est chez vous, François Quinard. Vous êtes donc le bourgmestre d'Aubange. Le broyeur situé sur le territoire de votre commune, il vous a causé pas mal de soucis.
Alors, il nous a causé pas mal de soucis, c'est vrai. Maintenant, c'est parce qu'il y a eu ces normes qui sont arrivées. Ils avaient 2 ans pour se mettre dans les normes. Au bout des 2 années, en 2020, ils n'y étaient toujours pas. Et donc, on a été interpellés par la région wallonne pour les faire se mettre en ordre. Tout à fait.
Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour les contraindre à respecter ces normes?
Alors, j'ai pris une ordonnance de police. Je venais d'arriver comme jeune bourgmestre. Et donc, je leur ai fait une ordonnance de police évolutive afin de pouvoir se mettre justement aux normes des PCB totaux rejetés par an. Donc c'est 100 grammes qui sont proposés dans les normes et donc ils étaient à 450 grammes et donc leur activité était divisée par 4,5 à peu près.
Donc vous avez bridé la production du broyeur pour polluer moins.
C'est ça. S'ils étaient à un moment 5 ou 6 fois plus élevés dans les rejets, on divisait par 6 l'activité et jusqu'à ce qu'ils mettent des nouveaux filtres pour pouvoir se mettre dans les normes. Ils s'en sont sortis comme ça, ils ont dû limiter leur activité en effet, accepter un petit peu moins de déchets à traiter et au final, en octobre, ils se sont mis en ordre avec le filtre à charbon actif qui était la dernière étape de leur système d'ultrafiltration qui maintenant fait qu'ils sont un tiers en dessous des normes. Donc ils sont à 30 grammes plutôt que 100 grammes par an.
Donc c'était octobre 2021 et donc depuis lors, depuis ce nouveau filtre, les choses vont mieux.
Depuis ce nouveau filtre, les choses vont mieux. En tout cas, on a beaucoup moins de plaintes des riverains. On remarque moins de fumée, etc. Donc franchement, on peut dire que sur Aubange, je ne vais pas dire que le problème est réglé, mais en tout cas, on a été vraiment loin dans le bon sens.
Alors pollution de l'air avec ces rejets, pollution aussi de l'eau, Manu, un comité de riverains a également analysé l'eau d'un ruisseau d'Aubange. Vous avez participé à ça, le Broc. Là aussi, on avait remarqué des taux qui étaient anormalement élevés.
Oui, donc je me suis rendu avec une ASBL qui s'appelle Cades dans ce ruisseau où sont rejetées les eaux industrielles d'Écor. Et là, avec eux, j'avais pu voir des irisations. On sentait une forte odeur d'hydrocarbures et il y avait pas mal de dépassements dans le rapport d'analyse. Il faut savoir que cette ASBL est allée plus loin et c'est une démarche assez originale. Ils ont documenté la pollution par des preuves scientifiques. Ils sont allés mesurer les concentrations en certains métaux lourds dans les légumes qu'ils cultivaient à côté du ruisseau en permaculture et certains contenaient trop de plomb, par exemple. Et puis, ils ont aussi analysé des œufs de poulaillers locaux et ils se sont rendus compte que dans certains poulaillers, on dépassait les concentrations admissibles de 7 à 8 fois. Donc, c'est une manière originale de conscientiser aussi les pouvoirs publics à cette pollution, non pas par de l'idéologie, mais par des faits.
François Quinard, vous avez travaillé avec les gens de cette ASBL. Il y a des résultats qui vous ont été partagés.
Tout à fait. Donc, Cades, on les a rencontrés à plusieurs reprises. On a beaucoup échangé avec eux. Il y a notamment les résultats sur les œufs qui nous ont été rapportés également, ainsi que les résultats au niveau de l'eau. L'eau a été aussi réanalysée par la région wallonne. Les résultats étaient quand même relativement bons, en tout cas pour les rejets du broyeur à métaux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de toute façon un dépôt historique, que ce soit dans l'eau ou même simplement sur le sol. Et ce dépôt historique, c'est vrai que quand on le retourne, ça nous fait des irisations aussi et d'autres choses. Donc, on voit plein de choses. Donc, il y a souvent un peu à manger, à boire, j'ai envie de dire, dans ce genre de problématique. Mais c'est vrai que le résultat, notamment sur les œufs, est quand même interpellant, puisqu'on a en effet remarqué qu'il y avait des dépassements, mais pas seulement autour du broyeur à métaux. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte que dans des poulaillers qui sont plus loin que normalement le rayon d'action du broyeur à métaux, je vais le dire comme ça, on retrouve aussi des œufs qui sont pollués au PCB. Et par contre, ceux, les poulaillers qui ont suivi les normes de la région wallonne, c'est-à-dire les conseils, les recommandations qu'on trouve, à savoir paver son poulailler et d'autres choses, nettoyer le sol et ainsi de suite, ces œufs-là étaient beaucoup moins pollués en PCB. Donc c'est quand même intéressant.
Alors après, des tests, on l'a dit, sur des légumes dans l'eau ou sur des œufs, les autorités wallonnes et la ministre de l'Environnement, Céline Tellier, ont décidé en mai 2021 de tester également les populations riveraines, de lancer un grand biomonitoring pour cibler les riverains de ces 7 broyeurs à métaux. 1 million d'euros a été débloqué pour tester les habitants. Ingrid Ruti, vous travaillez à l'ICEP, l'Institut scientifique de services publics, et vous êtes chargée de mener ce biomonitoring. En quoi ça consiste exactement ?
Donc effectivement, nous sommes mandatés par le gouvernement wallon pour faire cette étude de biomonitoring autour des 7 broyeurs à métaux, donc qu'on appelle BioBro en raccourci. Et donc l'objectif est de venir évaluer l'imprégnation, donc c'est-à-dire la quantité de polluants qu'on va retrouver dans le corps des riverains autour de ces broyeurs, donc des polluants qui sont potentiellement émis par ces broyeurs. Une fois qu'on a évalué cette quantité de polluants dans leur corps via une prise de sang et un échantillon d'urine, on va pouvoir comparer aussi avec le reste de la population wallonne pour lesquelles on a des valeurs de référence, voir s'il y a une surexposition au broyeur, le fait d'habiter autour du broyeur ou pas.
Qui va être testé exactement ? Vous ciblez une population adolescente ?
Voilà, nous testons des adolescents. Donc l'objectif est de recruter 500 adolescents pour les 7 broyeurs. Alors les adolescents, c'est intéressant de pouvoir les tester parce que c'est des sentinelles de l'environnement local. Ils vont à l'école pas loin de la maison, ils ont leurs activités sportives et récréatives aussi pas loin de la maison. Contrairement aux adultes, ils ont souvent peu déménagé encore. Et donc, c'est vraiment des bons reflets, des bons témoins de l'exposition locale et récente. Et donc aussi, les adolescents ne sont pas non plus exposés professionnellement. Donc, le but ici du projet est vraiment de voir une exposition environnementale. Et donc, en prenant les adolescents, on retire cette exposition professionnelle que un adulte pourrait avoir de par son métier.
Vous les avez trouvés, ces adolescents volontaires ?
Pas encore. Le recrutement est parfois un peu compliqué. Donc, les campagnes depuis le mois de mars ont été lancées sur les 7 broyeurs. Malheureusement, on n'a pas encore fait les séances de prélèvement parce qu'on n'avait pas atteint l'effectif visé. Donc, de 500 globalement, mais c'est 50 ou 100 en fonction des sites. Et donc, on relance une campagne d'information pour faire les prélèvements dans le courant du mois d'octobre.
Comment vous communiquez concrètement ?
On travaille beaucoup avec les communes puisque les communes connaissent leurs citoyens. C'est important aussi que les communes s'impliquent et de montrer qu'elles se soucient, elles s'inquiètent du devenir de leurs citoyens. Et donc l'ICEP fournit les supports, donc les affiches, les courriers, pour que la commune puisse communiquer avec les riverains. Et donc les communes ont fait un tout de boîte pour les habitants dans la zone d'études. On a même parfois envoyé un courrier directement aux adolescents et à leurs parents, pour qu'ils soient encore plus sensibilisés, donc un courrier nominatif. Il y a eu des affichages aussi dans les lieux stratégiques, via les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram et les sites web des communes.
François Quinard, vous participez à ce relais du biomonitoring. Comment ça se passe dans votre commune d'Aubange ?
On a essayé de communiquer tout ça en masse. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué. Je pense qu'on peut le comprendre parce que c'est vrai que c'est quand même un don de sang, donc c'est un petit peu invasif pour des adolescents. Et c'est vrai qu'on n'a pas un grand succès, on va le dire comme ça. On a relayé par les toutes boîtes, en effet, par les réseaux sociaux et ainsi de suite. On a essayé de toucher un maximum de jeunes, mais malheureusement, on est à 1/5 de ce qu'il aurait fallu recruter pour pouvoir avoir des résultats qui soient un peu intéressants.
Le sang et l'urine, ce sont les meilleurs outils pour détecter justement cette présence de métaux lourds et de PCB.
Ce sont parmi les matrices biologiques les plus couramment employées. Effectivement, le sang, c'est un peu invasif, mais l'urine, c'est vraiment un échantillonnage facile à faire. Et oui, ce sont des matrices qui sont de bons témoins des concentrations de polluants de l'environnement qu'on va retrouver dans le corps humain.
Manu, quand vous avez réalisé vos analyses sur des riverains, on l'a dit, autour du broyeur de la commune de Châtelet, vous avez prélevé des cheveux sur 70 personnes. Vous les avez trouvés comment, ces volontaires ?
Alors, ça a été très difficile et je peux tout à fait comprendre la difficulté que ça doit être pour recruter 500 personnes. Nous, c'était 70 seulement. On a fait du porte-à-porte, tout simplement. Donc, on avait 3-4 points de chute en arrivant sur Châtelet. On a commencé à prélever des cheveux à 9h du matin. Donc, avec ces 3-4 points de chute, on avait une dizaine de personnes. On était en train de tourner avec une caméra, un preneur de son. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, il faut arrêter de tourner parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Et donc là, on s'est séparés en deux équipes et on a commencé commencé à arpenter les rues. On a eu quelques refus et puis beaucoup de gens qui acceptaient de nous ouvrir leurs portes. Et donc, ça a été une journée... Oui, très très longue. On a terminé à 9h du soir puisqu'il fallait aussi un groupe témoin. Là, on a eu l'aide d'une collègue qui habitait à 10 km de là, qui nous a recruté à l'avance les personnes. Donc ça a été un peu plus simple pour le groupe témoin. Mais c'était une journée très longue et si on n'était pas allé trouver physiquement les citoyens, c'était impossible de réaliser ce projet. Donc voilà, c'est une journée très longue et il fallait le faire. Je pensais ne pas y arriver et devoir le faire sur plusieurs jours. Et finalement, on a eu un peu de chance. On s'est obstiné et on a pu le faire. Mais là, c'était 70 personnes, c'était pas 500.
Parmi les victimes rencontrées au cours de notre enquête, on pense à cet agriculteur, Emmanuel Dequesne. Ses vaches ont été contaminées au PCB. On l'a entendu encore dans votre reportage parce que la luzerne qu'elle mangeait était elle-même contaminée. Où en est-il aujourd'hui ?
Alors, on l'a évoqué brièvement dans le podcast. Donc, il a dû faire euthanasier 3/4 de son cheptel. Il nous avait contactés avant que ça ne se produise. Donc, c'était aussi une marque de confiance de sa part. C'était une responsabilité aussi pour nous de montrer le pire jour de sa carrière, de cet agriculteur. Donc, c'était une scène très dure. Lui a quitté les lieux parce qu'on peut le comprendre. C'était pas vivable pour cet agriculteur. C'était toute une partie de sa vie qui s'envolait. Et donc, il fallait essayer de montrer par le son, justement. Le son nous a beaucoup aidé dans cette séquence puisqu'on en avait fait une capsule sur les réseaux sociaux pour faire comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Il faut savoir qu'il lui reste 18 vaches. Elles sont toujours bloquées. Des vaches qui sont plus jeunes, mais elles sont toujours bloquées par l'AFSCA. Il ne peut pas les vendre. Mais l'AFSCA ne lui dit pas de les abattre.
Donc, l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire voilà, qui fait. Empêche de les rendre propres à la consommation.
Donc cet agriculteur, on ne lui dit pas il faut les abattre. On lui dit vous ne pouvez pas les vendre. Et donc il continue à les nourrir à perte. Et donc c'est un problème économique qui est insoluble pour cet agriculteur. Et donc plus que probablement, il va devoir faire une croix sur ces 18 vaches. À côté de ça, il y a aussi toute la procédure judiciaire. Il y a un expert judiciaire qui a été mandaté par le tribunal de première instance de Mons pour essayer d'établir les responsabilités, puisqu'il faut savoir qu'il y a un broyeur à métaux au bourg, mais il y a aussi une cimenterie qui rejette des PCB. Et il y a un avis provisoire qui a été rendu par cet expert et qui estime que le broyeur à métaux est responsable à 75% de la contamination du champ de luzerne et donc des vaches d'Emmanuel Dequesne. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va aller au tribunal. Il tente une conciliation, un arrangement à l'amiable avec l'entreprise pour peut-être éviter un procès qui va durer de nombreuses années et qui permettrait d'aller plus vite vers une solution et un remboursement, puisqu'on estime ses pertes à environ 300 000 à 400 000 euros.
François Quinard, est-ce qu'il y a eu aussi ce genre de difficultés, ce genre de problèmes et de conséquences concrètes dans votre commune ?
Non, pas vraiment. De notre côté, je veux dire, bon, la commune chez nous est déjà fort industrielle dans son passé. Donc c'est une habitude que les gens ont pris chez nous. On n'a pas vraiment d'agriculteurs qui sont autour directement du broyeur à métaux en lui-même. Hein. Il y en a qui sont quand même pas si loin que ça. Mais le site se trouve vraiment sur une zone industrielle. Et donc on n'a pas eu cette difficulté-là. On s'est essentiellement concentré la problématique chez nous sur les dépôts sur le sol. Et donc on parlait des légumes, des œufs, on parle de l'eau. Et puis on parlait évidemment de l'air, où là, évidemment, suite à votre émission, on a eu une série d'appels justement parce qu'il y avait des préoccupations, il y avait une crèche qui était quand même pas si loin que ça, et ainsi de suite, mais on n'avait pas d'agriculteurs directement impactés, et notamment pas du tout avec des bêtes, et ainsi de suite.
Ingrid Ruti, on entend ces contaminations aussi des animaux, c'est interpellant, ça peut aussi avoir un impact sur l'homme.
Dans le sens où l'homme va manger les aliments produits sur place, oui, ça peut avoir un impact. Donc, parmi les recommandations qui ont été fournies après les premières études environnementales, il était recommandé de ne plus manger les œufs qui étaient autoproduits, donc par son poulailler, sauf si on mettait en place différentes mesures comme mettre les poules sur un sol bétonné et plus sur de l'herbe. Comme ça, elles vont le sol, on peut facilement le nettoyer. Il y a plus de dépôts de poussière. Et pour les légumes et les fruits du potager, bien les laver, voire ne plus les consommer, mais en tous les cas les laver correctement avant de les manger.
Alors quand on entend que 6 broyeurs sur 7 aujourd'hui en Wallonie respectent les normes, c'est évidemment une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas forcément dire que la pollution disparaît.
Non, malheureusement, puisque ce sont parmi les substances qui sont émises potentiellement par les broyeurs, il y a des substances qui s'accumulent dans l'environnement et qui sont peu biodégradables. Et donc, du coup, effectivement, il y a une accumulation et il va falloir du temps pour que toutes ces substances disparaissent.
Alors, à Courcelles, dans le Hainaut, on en a aussi parlé. Il y a aussi un broyeur. Une école a dû déménager à cause de la pollution. Le broyeur mis en cause, c'est depuis mis aux normes. Mais il y a toujours, Manu, des explosions sur le site. En quoi ça consiste ?
Oui, j'ai eu un contact avec une riveraine directe de l'entreprise qui m'expliquait qu'il y avait toujours des explosions. Donc, plus que probablement, c'est un manque de tri à l'entrée du broyeur. Donc, on avait vu durant notre enquête qu'il y avait parfois des bonbonnes de gaz qui restaient malheureusement dans les objets qui allaient être broyés. Et donc, c'est parfois aussi des restes de diesel, d'huile qui peuvent s'enflammer. Et donc, ça provoque des explosions. Et donc, si les normes sont respectées en termes de PCB, donc c'est à la sortie de la cheminée du broyeur, mais ces explosions évidemment provoque des nuages de poussière parfois qui se retrouvent encore dans le jardin des habitants. Donc c'est une situation qui n'est pas encore tout à fait réglée. On sait qu'il y a eu aussi un procès en justice. L'entreprise a été condamnée à une amende assez importante. La société a fait appel de cette décision, donc ça va encore prendre certainement un peu de temps. Et la bourgmestre Caroline Taquin, à la suite de cette explosion qui avait fait fermer l'école, avait pris une ordonnance de fermeture. Donc le broyeur a été fermé pendant un mois et pour de nouveau se remettre aux normes. Mais tous les problèmes ne semblent pas réglés.
Ce problème des explosions, c'est aussi quelque chose que vous connaissez à Aubange. C'est aussi une nuisance pour les riverains.
Alors, il y en a eu un petit peu par le passé. Maintenant, depuis que c'était Ecor, qui était quand même un groupe relativement costaud au niveau européen et qui a été racheté déjà depuis par de Richebourg. Mais comme on avait affaire à un gros groupe, le tri était quand même vraiment bien fait maintenant. Et donc, c'est relativement rare quand on a des explosions. Et on en a eu par le passé quand c'était plutôt une casse avec quelqu'un qui était qui n'était pas un gros groupe, qui était plutôt une PME du coin ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, c'est vrai que le tri n'est peut-être pas aussi bon. Et donc, quand on a affaire, comme le dit encore bien la bourgmestre Taquin chez elle, à un cow-boy qui ne fait quasiment pas le tri, ben évidemment, on retrouve beaucoup d'explosions.
Comment vous envisagez l'avenir dans votre commune et comment vous envisagez la cohabitation à long terme avec ce broyeur?
Mais je pense qu'il faut rester dans cette perspective de pouvoir faire respecter les normes. Ça, c'est une première chose. Que la région Wallonne puisse continuer à étudier, parce qu'on est seulement en train de découvrir ça, puisque la région Wallonne vient de mettre des normes en 2018. C'est quand même, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on se rend compte qu'il y a une problématique. Et donc, c'est l'intérêt, justement, de pouvoir faire plus de mesures. Donc, moi, j'ai encouragé déjà la ministre à faire des mesures beaucoup plus fréquentes, parce que deux par an, ça me semble insuffisant.
Aujourd'hui, ces broyeurs sont contrôlés deux fois par an seulement.
Voilà, deux fois par an dans le cadre de leur permis d'environnement. Et donc, je pense que avoir une imposition à plusieurs fois par an, alors à eux de le déterminer, mais ça peut être une fois tous les deux mois ou une fois tous les mois, par exemple. Nous, c'était une fois toutes les deux semaines. Et ça permet quand même de pouvoir tirer des résultats assez intéressants, je pense, pour pouvoir faire le suivi et faire la surveillance. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on va devoir, et c'est ce qu'on a demandé nous, on a demandé pour les œufs, la ministre l'a refusé, mais une étude au niveau des œufs, je pense que ça pourrait être intéressant. Et on a aussi demandé, évidemment, que l'eau, parce que l'eau est une des problématiques qui a été soulevée dans votre reportage, je pense qu'il serait très intéressant de s'attarder sur les cours d'eau, voir quelle est cette pollution dans les cours d'eau. Est-ce que c'est une pollution qui est historique? Est-ce que c'est le broyeur à métaux maintenant? Probablement avant aussi. Ça s'accumule dans le fond du cours d'eau. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire avec les cours d'eau.
Il y a une inquiétude dans votre commune?
Il y avait beaucoup d'inquiétudes, notamment au niveau des fumées. Maintenant, ce problème, on l'a dit, est relativement réglé. Il reste une inquiétude quand même au niveau des œufs et de l'eau. Ça, c'est les inquiétudes principales que nous, on a essayé de relayer un maximum. Mais évidemment, au niveau communal, c'est très difficile de pouvoir mener ce genre d'études et on n'a personne chez nous, dans notre administration, qui peut le faire.
Ingrid Ruti, de votre côté, c'est quoi le programme par rapport à ce biomonitoring? Concrètement, les analyses vont bientôt démarrer?
En octobre, on fera les prélèvements biologiques et après, ces prélèvements vont être analysés par les laboratoires partenaires de toxicologie. Donc ça va prendre quand même plusieurs semaines pour faire toutes ces analyses, car c'est des analyses assez complexes. Et puis alors, donc, il y aura toute cette phase d'interprétation et de rédaction des rapports pour pouvoir communiquer les résultats à chaque participant de manière individuelle, mais aussi les résultats collectifs, bien sûr, anonymes.
On peut avoir une estimation, quand on pourra avoir, vous pensez, ces résultats, quand ils seront rendus publics?
Alors initialement, on espérait pouvoir rendre tout ça fin de l'été 2023. Maintenant, comme il y a eu un petit décalage dans nos prélèvements, ça sera probablement plutôt fin de l'année 2023.
Après, ce sera aux autorités de s'emparer de ces résultats et de décider des mesures à prendre.
Voilà, oui. Nous vous allons proposer des conclusions de notre étude et des recommandations. Et après, c'est dans les mains des autorités.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités. Merci à Amaury Boucher pour la réalisation de ce podcast. Et merci à vous de nous écouter.